Bienvenue dans Manager au quotidien. Si vous êtes manager ou si vous espérez le devenir un jour, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Rifa Choulet et je suis coach professionnelle. Passionnée par le management et convaincue qu'être manager, c'est un métier à part entière, j'accompagne aujourd'hui des managers et dirigeants en leur offrant un espace où ils peuvent prendre du recul et réfléchir à leur rôle. Pour aller plus loin dans votre développement de manager, n'hésitez pas à vous abonner à nos actualités sur le site www.lepremierjour.fr. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série consacrée au management interculturel. J'accueille pour cela Astrid Van Ruymbeck qui nous rejoint après le premier épisode dans lequel nous avions parlé du multiculturel de manière générale. Nous avions posé le cadre. Qu'est-ce que le multiculturel? Pourquoi s'y intéresser quand on est manager? Astrid nous avait également partagé quelques bonnes pratiques et nous allons aujourd'hui rentrer dans le vif du sujet en utilisant toujours le modèle d'Erin Meyer, The Culture Map, pour passer en revue les 8 piliers du multiculturel. Bonjour Astrid.
Bonjour Rifa.
Merci de nous rejoindre de nouveau pour cette série. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à aborder les 8 piliers du management multiculturel. Alors je vais les lister. Communiquer, évaluer, convaincre, diriger, décider, faire confiance, être en désaccord et organiser ou planifier. On va plus particulièrement parler des 3 premiers piliers et je suis absolument ravie que tu aies accepté de poursuivre l'aventure. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser quelque chose et n'hésite pas Astrid à compléter. On va beaucoup parler et donner des exemples de cultures nationales respectives sur tel ou tel aspect de ce que l'on va traiter aujourd'hui. Il faut quand même garder à l'esprit que tout cela a une forte notion de relativité. Il va venir impacter ce que l'on va dire. Autrement dit, 2 cultures nationales qui seraient à une même extrémité d'un spectre, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, vont se situer en relativité l'une par rapport à l'autre.
C'est exactement ça. On pourrait donner l'exemple des cultures latines. En fait, quand on regarde l'Italie, l'Espagne, la France, on est tous plus ou moins à peu près toujours au même endroit sur les échelles. Mais pour tous ceux qui ont bossé avec des Espagnols ou des Italiens, on sait que ça marche pas exactement pareil. Donc, à l'échelle du monde, on est à peu près au même niveau. En revanche, les uns par rapport aux autres, on se positionne plus d'un côté ou plus de l'autre. Et ça, ça a un impact, en fait, dans notre manière d'interagir ensemble.
Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. On n'a pas des cultures latines, on va dire, homogènes, par exemple. Tout comme on n'a pas des cultures anglo-saxonnes homogènes. Et je suis sûre que tu nous donneras pas mal d'exemples. Eh bien, écoute, sans plus attendre, Astrid, donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons traiter les 3 sujets: communiquer, évaluer, convaincre. Et on va commencer par communiquer, avec une notion très intéressante qu'aborde Erin Meyer dans son livre, de la notion de contexte.
Absolument.
Low context, high context. Astrid, je te laisse peut-être nous parler de la communication dans un environnement multiculturel.
Merci, Drifa. Alors, effectivement, c'est ce que tu disais, hein, la communication, on va aller d'un côté où il y a énormément de contexte et où on va être sur l'implicite, donc finalement, lire entre les lignes, quelque part, versus des cultures qui vont être avec un très faible niveau de contexte ou alors extrêmement explicite. Moi, je parle souvent de implicite, explicite, et ça change énormément de choses. Alors, le plus extrême dans l'explicite, peut-être que vous avez déjà eu cette expérience tous, ce sont les Américains qui disent tout, mais tout, 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 tout. Il faut s'arrêter, il y a un stop, ils vous disent oui, il faut s'arrêter devant la ligne blanche. Ah oui, je sais, enfin, il y a un stop, il y a un panneau, j'ai compris, quoi.
Pas besoin de me l'expliquer.
C'est bon, ça va. Ça va être notre réaction à nous, en fait. Les Américains, qui sont ceux à les plus extrêmes, hein, ils sont dans l'explicitation permanente. Et c'est de la communication littérale. Et en fait, dans ces cultures-là, si on élargit un petit peu aux communications anglo-saxonnes, en fait, la responsabilité de la compréhension du message, elle est sur celui qui communique.
L'émetteur.
OK. Donc, celui qui émet le message est responsable de la compréhension de l'autre. Et donc, il n'y a aucune hypothèse de « non, mais si je dis ça, il va comprendre ça » ou « mais c'est bien évident que… » Non. On dit tout.
Est-ce qu'il y a une notion là-dedans si on se replonge un peu dans l'histoire, de cadres communs de référence.
C'est exactement ça. En fait, les cultures sont plus ou moins explicites, de manière générale, en fonction du cadre commun de référence qu'elles ont. Et si on y réfléchit bien, donc d'un côté, on a les États-Unis, qui est un pays hyper récent, qui est un pays d'immigration et d'immigration variée. Au début de l'immigration, il y avait des Français, des Suédois, des Italiens, des Anglais, des Irlandais, enfin, il y avait un peu tous les pays d'Europe.
Et aujourd'hui, ça se poursuit d'ailleurs.
Et aujourd'hui, ça se poursuit. Mais donc, imagine à l'époque, t'as tous ces gens-là qui arrivent. Aujourd'hui, on est quand même un peu plus interconnectés, on comprend un peu mieux ce qui se passe ailleurs. Mais à l'époque, on connaissait son village où, et le mode de fonctionnement de là où on venait. Et puis, c'est tout. Donc, tout le monde pouvait interpréter ce qu'on disait de 15 manières différentes.
Ouais.
Et donc, finalement, il y a eu un besoin d'explicitation de tout. Et quand on explicite tout, bah, il y a moins de sujets de comment je vais comprendre.
Ouais.
Donc ça, c'est un côté du spectre. L'autre côté du spectre, c'est souvent les cultures asiatiques, notamment le Japon.
Ouais.
Là, à l'inverse, culture insulaire, extrêmement fermée quand même, très peu d'échanges avec, historiquement, hein, avec le reste du monde. Et donc, un socle commun de valeurs hyper fort. Et où donc là, l'objectif, c'est de ne pas déranger, on est dans le collectif, on fait attention à tout, on écoute deux fois plus qu'on parle, et finalement, dès qu'on fait quelque chose, on s'interroge sur l'impact sur les autres.
Et quelque part, on a les mêmes codes, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais...
Absolument. Il y a des règles communes, des normes communes, en fait, qu'on connaît et qu'on enseigne, en fait, aux enfants dès le plus jeune âge.
Mmh.
Et donc là, à l'inverse... Je crois me souvenir, et donc je demande pardon si je me trompe aux gens qui parlent le japonais, mais je crois qu'il n'y a pas de futur ou de passé.
Ouais. Oui, en tout cas, dans certaines cultures asiatiques, certaines langues asiatiques, tout à fait.
Absolument. Et en fait, là, ce qui va donner le futur ou le passé, c'est le contexte. C'est ce qu'on va dire demain, est-ce qu'on va dire hier, est-ce qu'on va dire, etc. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Au boulot. Alors, au boulot, ça veut dire... que, en fonction de son interlocuteur, on va gérer sa communication de manière différente. Quand nous, on est manager.
Nous, Français. Hein.
Nous, Français. Nous, Français, quand on va parler à un Américain ou à quelqu'un de culture anglo-saxonne de manière générale, en fait, il faut tout expliquer. Et tout expliquer, je ne sais pas, mais en tout cas, tout expliciter. Donc, il n'y a pas de « oui, mais attends, j'ai dit ça, ça voulait bien dire que… » Non. Si on veut quelque chose, on le dit. Et de toutes les manières, si l'autre n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas été clair. Et de manière générale, exemple, j'ai besoin de la présentation pour demain soir.
Classique.
Versus, j'ai mon point avec mon boss dans 2 jours, est-ce que tu peux me donner les éléments avant? Oui, mais avant, c'est quoi avant?
Ça te paraît clair quand même, ça me paraît assez clair quand même.
Et il faut tout dire, en fait. Et d'ailleurs, Erin Meyer dit un truc génial. Elle parle, parce qu'elle est américaine, mais elle vit en France.
Oui.
Et en fait, elle dit que en France, il y a un mot qu'on utilise évidemment tout le temps, qui est le sous-entendu, qui est donc l'art de dire les choses sans les dire.
Mm-hmm.
Bon, nous, ça nous paraît évident. En anglais, ce mot n'existe pas, en fait.
Ah oui.
En fait, c'est le mot, mais donc le concept n'existe pas.
Oui, intéressant. Parlons en tant que tel.
C'est ça. Il n'y a pas. Donc, il faut dire. Elle dit aussi que 500 000 mots en anglais se traduisent en 70 000 mots en français. Ce qui veut dire qu'en fait, en français, on va utiliser des mêmes mots pour décrire en fait des situations différentes, mais que le contexte nous permet de le comprendre.
Mmh.
Donc, en pratique, il ne faut pas hésiter avec des gens de culture anglo-saxonne de toute explicité.
Et alors, comment tu faisais, toi, quand tu étais manager, dans des environnements, que ce soit en Italie ou aux États-Unis, par exemple, pour expliciter? T'avais quoi? T'avais une charte de bonne communication? Comment tu fonctionnais au quotidien, justement?
Alors, en fait, il y a beaucoup d'expérimentation, en fait.
Mm-hmm.
Et en fait, à la fin, je détaillais le plus possible.
OK.
Et parfois, il faut pas avoir peur de dire l'évidence.
Sans avoir peur éventuellement qu'on te prenne pour un micromanager, éventuellement.
Alors, c'est le problème. Mais là, pour éviter en fait d'être dans le micromanagement, ce que je faisais, c'est que je ne me concentrais pas sur la tâche. En revanche, je détaillais l'objectif, ce dont j'avais besoin. Après, sur le comment ils y arrivaient, ça, c'était, je les laissais libres, en fait.
Ok.
En revanche, j'étais extrêmement précise sur le rendu attendu. Et si je voulais une présentation et que je la voulais en trois parties avec une intro qui commençait par ça, ça et qui finissait par ça et ça, je le disais. Versus, fais-moi un point sur le projet.
Mm-hmm. Ok.
Ouais, ça, c'est un bon exemple, je pense. Fais-moi une présentation pour expliquer où t'en es du projet et de dire ce que j'attends de ta présentation, c'est tel élément, tel élément et tel élément.
Ok. Ouais, il y a une vraie différence, ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ne devaient retenir qu'une seule chose sur comment bien communiquer quand on manage des équipes multiculturelles ou quand on évolue dans un environnement multiculturel, ça serait quoi?
Alors, pour moi, c'est rien n'est jamais évident. Dans un environnement multiculturel, cet axe, pour moi, est le seul où, en fait, ce qui marche dans un environnement multiculturel, c'est l'explicite.
Ouais.
Rien n'est évident. Il faut tout expliciter et surtout ne pas hésiter à faire reformuler l'autre sur ce qu'il a compris.
Ok.
Et à l'inverse, nous reformuler quand quelqu'un nous dit quelque chose pour être sûr qu'on s'est bien compris.
Et voilà. Ça mord d'ailleurs, ça m'évoque quelque chose sur un point qu'on couvrira plus tard sur le pour éviter le oui, 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 qui en tant que tel peut être culturel, mais on y viendra. Et s'assurer que finalement, j'entends que le mode par défaut de communication dans un environnement multiculturel, c'est le mode explicite en fait.
C'est celui qui marche le mieux. Et d'ailleurs, Erin Meyer dit que les plus grosses incompréhensions, en fait, dans un environnement multiculturel, viennent quand il y a deux personnes qui viennent de cultures implicites, mais qui ne sont pas les mêmes cultures. Où, en fait, elles vont rajouter plein de contextes et plein d'interprétations à ce que dit l'autre, mais c'est pas les mêmes. Donc, en fait, ça marche pas.
Par exemple, je dis n'importe quoi, un japonais et un indien.
Voilà. Exactement. Et ben là, ça ne marchera pas.
Waouh. Ok. Quelque part, l'explicitation, qui n'est pourtant pas dans leur nature culturelle, on va dire, est ce qui permettra que ça fonctionne, finalement.
Exactement.
Waouh.
Ça, et une dernière chose aussi, quand on parle, nous, quand on est en binôme, en fait, avec des gens d'une culture qui est plus implicite que la nôtre, écouter, enfin, se poser la question de ce qu'ils veulent dire, et non pas écouter ce qu'ils disent. Tu parlais des cultures qui disent oui, oui, oui tout le temps parce qu'en fait, on ne peut pas dire non à quelqu'un. Alors, c'est se poser la question. Oui, il m'a dit oui, mais il a rajouté une phrase après. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire sur la phrase qu'il a rajoutée après?
Ok, ok. Finalement, c'est celle-là qui est importante et qui va donner le sous-titre, si je puis dire.
Exactement.
Waouh, ça doit demander pas mal d'entraînement, ça. Comme tu dis, pas mal d'essais et d'erreurs.
Ah mais c'est clair, on fait des erreurs, on se trompe. Moi, ce qui m'aidait énormément, personnellement, c'est de parler du multiculturel, de mettre le sujet sur la table. Ce qui permettait de faire passer quelques couacs, si besoin.
Ouais, ok, communiquer sur ce qu'on fait, quoi. Ce qu'on a
exactement
méta-communiqué, quoi.
Absolument.
Et je suis une grande fan de ça, merci de parler. Ok, donc ça c'est la communication, très, très intéressant. Je te propose de passer à l'un de mes préférés, je crois, qui est l'évaluation. Je suis sûre que tu auras des petites anecdotes à nous donner. Alors, là-dessus, qu'est-ce que ça couvre finalement l'évaluation et quel impact la culture peut avoir?
Alors, un impact monstrueux. C'est dingue. Et celui-là, je fais un petit point d'attention à ceux qui nous écoutent, que j'imagine être principalement français. C'est un axe sur lequel nous, on est assez extrême, nous, Français. Donc, il faut faire particulièrement attention parce qu'il y a assez peu de gens qui sont plus directs que nous. Donc, en fait, évaluer ou faire un feedback négatif, en fait, l'échelle va de direct à indirect. Alors, ça veut dire quoi? Direct, ça veut dire qu'on donne le feedback négatif, franchement, honnêtement.
Donc, genre, voilà. Ta performance, ton dossier, c'était pas terrible, quoi.
Voire c'est mauvais.
Voire c'est mauvais, ok.
Déjà, le pas terrible, non. Tu utilises en fait des terminologies absolues.
Ok.
C'est pas pro du tout ce que tu viens de faire.
Ok.
T'es arrivé en retard, c'était complètement inapproprié. Et on peut critiquer devant un groupe. Donc ça, c'est toute le côté feedback négatif direct. Versus le feedback négatif donné en douceur, subtilement, de manière très diplomate. Donc là, on va enrober les messages négatifs de messages positifs. On va mettre des mots qui adoucissent le message. Oui, c'était assez inapproprié. En quelque sorte, ce que t'as dit, Et surtout, on le fait toujours en privé.
Alors, ce qui est marrant, Astrid, mais j'ai probablement un gros biais, hein, ces fameuses lunettes violettes, dont tu parlais dans le premier épisode, j'aurais cru que finalement la France n'était pas forcément la plus extrême sur ce spectre. J'aurais bien vu certaines cultures anglo-saxonnes être beaucoup plus directes que nous. Et c'est vrai que c'est très surprenant d'entendre dire ça, en fait.
Et en fait, pas du tout. C'est vrai que ça ressemble... moi, j'avais tendance, en tout cas, à lier ça à la communication.
Ouais.
Là, bon, c'est hyper explicite, donc je peux être hyper direct dans ce que je dis.
C'est ça.
Et en fait, pas tout à fait. Pour citer un exemple, moi, je me souviens d'un de mes managers qui m'a toujours dit, de manière, tant que je te dis rien, c'est bon.
Donc, un manager français, hein.
Oui, évidemment.
OK.
Si un manager français qui me disait, moi, si je te dis rien, c'est que c'est bon. Et donc, à chaque fois qu'il venait en me disant, faut que je te dise un truc, je me disais, ah là là, qu'est-ce que j'ai fait encore, mon Dieu, au secours. Je le savais.
Et donc, il venait jamais te dire, là, c'était bien, quoi.
C'était exceptionnel. Ça n'arrivait jamais. Enfin, ou presque jamais. Si je repense à mes bulletins scolaires.
C'est le jour de la rentrée, c'est bien.
C'est le jour de la rentrée, c'est bien. Je crois que ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, quand c'était même super, il y avait un petit TB dans le coin là, qui se baladait. En revanche, quand c'était pas bon, on avait c'est inacceptable, correct, mais peut mieux faire. Enfin bon. Il y avait toujours plus de détails sur ce qui allait pas que sur ce qui était bien.
Le renforcement positif, c'est pas notre truc, quoi, en gros.
Non, c'est pas notre truc. Ça, clairement, culturellement, ça allait pas. C'est en train d'évoluer un petit peu, mais culturellement, ça allait pas.
Alors, toi qui as vécu aux États-Unis et qui as travaillé aux États-Unis, comment c'est dans cette culture explicite, justement, comme on le disait il y a un instant?
Eh ben, sur les feedbacks, par exemple, on vous apprend qu'il faut faire trois feedbacks positifs pour un feedback négatif. Sinon, c'est hyper violent.
Ouais, mais c'est pas un peu mécanique, ça, du coup?
Nous, ça, vu notre référentiel, ça nous paraît un peu mécanique, un peu artificiel, un peu tout ça. Mais en fait, si on le fait pas, le problème, c'est que les gens se braquent complètement et sont hyper vexés et finalement, n'entendent plus rien.
OK.
Donc, il faut s'adapter.
D'accord. Donc, du coup...
Le fameux feedback sandwich, là, dont on parlait beaucoup à une époque.
Ah bah oui, oui.
Ça, c'est un truc américain. En France, ça marche pas. Parce qu'en France, on met deux positifs. Pour un négatif, on dit oui, globalement, c'est bon, quoi. Donc, en fait, on n'écoute même pas le négatif.
Oui, surtout que nous, affamés de positifs, si j'ai bien compris, peu ou prou, on se dit, ah bah super. Et du coup, à quoi est-ce que ça peut donner lieu, toujours, hein, quand on est manager venant d'une culture et manager des personnes de la culture opposée ou plus éloignée sur le spectre, qu'est-ce que ça peut donner lieu à quoi, finalement?
Alors, quand on est manager français,
okay.
Le risque, c'est qu'on soit perçu comme quelqu'un de extrêmement dur, voire qui harcèle, en fait, et donc, en fait, qui démotive l'ensemble de ses équipes. Donc ça, c'est le gros risque. Alors après, il faut faire attention aussi, comme d'habitude, hein, tout ça, c'est compliqué, parce qu'il faut quand même faire du feedback, parce que c'est quand même par le feedback, y compris négatif, qu'on progresse.
Ouais.
Et donc, en fait... La recommandation d'Avril Meyer, sur laquelle je suis pour le coup complètement en phase, c'est que pour l'évaluation et le feedback négatif, il faut s'adapter à la culture de la personne qui le reçoit.
Okay, donc là, on est côté vraiment récepteur.
Récepteur. Parce qu'en fait, c'est recevoir un feedback, ça met toujours les gens, ils ont fait des études en fait, dans un état de stress modéré à extrême.
C'est dingue.
C'est dingue, hein. Pour un feedback sur une présentation. Enfin, on s'en fout, enfin, en vrai, on sauve pas des vies quand même. Mais nous, en fait, quand on reçoit un feedback, c'est l'état, en fait, dans lequel on se trouve.
Ouais.
Et donc là, il faut pas se dire, oui, mais là, il va comprendre ou elle va comprendre que moi, je viens de telle ou telle culture. Non. Là, pour être efficace, on s'adapte à la culture de l'autre. qui peut aller en fait sur des cultures de feedback négatif extrêmement indirect jusqu'à ne pas parler de ce qui ne va pas.
Bon, c'est pas exemple. Pas que ça.
Mais si, et c'est ça justement qui est intéressant.
Un exemple.
Un exemple. Vous avez quelqu'un dans notre équipe qui avait fait une super présentation la semaine dernière et qui cette semaine a fait une présentation complètement catastrophique, que vous trouvez nulle. Et ben là, il faut lui dire quand même, parce que si elle continue, si il ou je dis il, mais il ou elle continue comme ça, ça va pas le faire. Et donc, en allant voir la personne de votre équipe, vous allez lui dire, tu sais, la présentation que tu as faite la semaine dernière était vraiment excellente pour telle et telle raison. Donc là, vous êtes spécifique sur ce qui a fait que la présentation de la semaine d'avant était géniale et vous ne dites rien sur la présentation du jour.
Okay.
Et ben, ne vous inquiétez pas, le message serait très bien passé.
Ok, parce que la personne, donc le récepteur, vient d'une culture implicite. Donc, dans son mode de fonctionnement, son équation, ça va être « Alors, attends, mon boss ne me parle que de la présentation qui était super. » Donc, par conclusion, entre guillemets, la dernière n'était pas au niveau, quoi, globalement.
C'est ça. Alors, c'est vrai que là, tu as dit implicite. Implicite, c'est vraiment l'échelle de la communication.
Ouais.
Sur le feedback, on part plus de indirect.
Indirect, pardon. Oui, mais indirect, excuse-moi.
Mais là où tu as raison, c'est que la majorité des cultures, encore une fois, pas toutes, mais la majorité, sont communication explicite, feedback direct.
Oui.
Communication implicite, feedback indirect. Mais il y a des contre-exemples.
Il y a des contre-exemples.
Les États-Unis, par exemple.
Ouais. Alors, justement, dans le livre d'Erin Meyer, il y a une anecdote qui m'a pas mal marqué, qui était cette Française aux États-Unis, qui a un entretien d'évaluation avec son boss, où son boss lui fait, comme tu dis, trois feedbacks positifs, un feedback négatif. Donc, elle repart contente. Elle ne tient pas spécialement compte de l'aspect négatif. Et un mois après, son boss lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait sur ce sujet ?» qui était précisément le feedback négatif et qui était celui, si je comprends bien, qu'il aurait vraiment, vraiment fallu traiter.
Exactement. Ben, c'est ça. Il faut faire hyper attention. Parce que, surtout dans la culture de feedback, c'est ce que je disais, nous, on est extrême sur cet axe-là. Nous, quand on nous enrobe le négatif, en fait, on se dit que, ouais, c'est bon, globalement, ça va, quoi.
Globalement, ça va. Oui, ce fameux globalement, ça va. Ouais, très bien. Est-ce que tu as pu te faire avoir sur cet aspect de feedback, toi, dans ton expérience?
Alors. Moi, je reconnais, j'ai eu, en fait, quand j'ai travaillé aux États-Unis, mon boss était français. Donc, j'ai pas eu à gérer, en fait, ça. En revanche, moi, j'ai eu à les gérer sur de l'autre côté, puisqu'en fait, j'encadrais des gens qui étaient tous américains.
Bah.
Et alors, j'avais été formée à ça avant, donc en fait, je faisais hyper attention. J'ai sûrement fait des erreurs, hein, forcément, comme tout le monde. Mais je faisais hyper attention. Et moi, je repense toujours à la personne qui nous a formés avant qu'on parte aux États-Unis, qui disait que en fait, un manager français, quand il évalue, il fait la liste de tout ce qui va pas, depuis son abord. Et un manager américain, quand il évalue quelqu'un, il fait la liste de tout ce qui va bien.
Mmh.
Et en fait, pour comparer deux évaluations, bah, le français, il dit là, bah, là, il y a que deux trucs qui vont pas, alors que l'autre, et on a 10. Donc, celui qui est le mieux, c'est celui qui n'a que deux trucs qui vont pas. Et l'américain, il va raisonner dans l'autre sens. Il va dire, il y en a un qui a 15 choses qui vont bien et l'autre qui en a que 3. Donc, voilà. Et ça m'était resté. Je faisais très attention à ça.
Ok, intéressant. Alors, même question que tout à l'heure. Si on ne doit retenir qu'une chose sur l'évaluation et cette notion de feedback direct et indirect quand on est manager dans un environnement multiculturel, ça serait quoi pour toi, Astrid?
Ce serait, avant de faire un feedback, toujours se poser la question de quelle est la culture de celui qui va recevoir le feedback.
Ok. On se place côté récepteur.
On se place côté récepteur.
Okay. Super. Génial. Merci, Astrid. Eh bien, écoute, on va passer au troisième item du jour. Ah, que j'aime aussi beaucoup, mais je crois que je vais dire ça à chaque fois, en fait. Donc, qui est comment est-ce qu'on exerce notre capacité à convaincre dans un environnement multiculturel? Alors, quels sont les grands principes, Astrid?
Alors, les grands principes. Déjà, j'adore quand tu commences ça. Merci pour cette introduction. Convaincre, en fait, l'échelle, elle va des principes d'un côté à l'application pratique de l'autre.
Nous, français.
Alors nous, ça c'est la deuxième échelle où on est, celui-là on est à l'extrémité, il n'y a pas pire que nous, enfin pire, il n'y a pas plus extrême que nous vraiment. Nous on est sur les principes, très clairement, on est sur les principes. Et là je pense au droit, pour ceux qui ont fait un peu de droit, quel est l'esprit du texte?
Ah bah oui, l'esprit ou la...
Alors, en éducation, à l'école, c'est pareil, hein, cogito ergo sum, Descartes, le concept. Donc nous, on est sur ce côté-là. Et donc, alors à l'inverse, d'autres sont beaucoup plus dans l'application pratique, et c'est l'application pratique, en fait, qui va nous permettre de définir la règle après.
Alors c'est quelque chose d'empire, un peu plus empirique, c'est ça?
C'est beaucoup plus empirique.
Mmh.
Et alors, pourquoi c'est important dans le monde professionnel, en fait? On peut se dire, ouais, ok, bon, bah oui, l'école, c'est pas pareil, mais bon. Alors, en fait, dans le monde professionnel, c'est hyper important, surtout quand vous faites des présentations, en fait, à, bah, je sais pas, moi, au comité de direction, à votre boss qui vient de je ne sais où. Et en fait, la manière de convaincre et de présenter son travail va finalement être très différente, bah, en fonction de ce qu'on nous a appris à l'école, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans ce qu'on nous a appris à l'école.
Ouais.
Et donc, la discussion ou l'absence d'une discussion, d'ailleurs, qu'on aura avec les personnes à qui on présente, en fait, va dépendre de comment eux voient ça par rapport à nous. Par exemple, dans les principes, donc dans les cultures où on est très sur les principes, donc c'est la France, l'Italie, la Russie, l'Allemagne aussi, par exemple.
Okay. OK.
Donc là, quand on va présenter un projet, voilà, on a réfléchi à un projet, donc là, on a besoin d'avoir une décision sur, on a deux ou trois recours. Et donc là, on veut une décision officielle. Donc, dans ces cultures-là, on va commencer par développer la théorie, les concepts, donc on va construire l'argumentaire. Okay. Voilà, la problématique, c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé, on a fait trois groupes de travail, qui ont chacun réfléchi sur ça, ça, ça. On présente notre raisonnement.
Okay.
Et à la fin, on dit, bon, bah voilà, donc en fonction de ça, on avait trois options, et finalement, pour telle et telle raison, les pour les contre, ding, 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 notre recommandation, c'est ça, est-ce que vous êtes d'accord?
Mm-hmm.
Très français.
Ouais. Oui, oui, je reconnais assez bien, et j'ai du mal, du coup, à imaginer comment ça peut être autrement.
Voilà.
Et du coup, j'ai hâte.
Et donc, dans l'autre sens, alors, à l'autre extrémité du spectre, typiquement, bah, y a les États-Unis.
Ok.
Et globalement, les cultures anglo-saxonnes. Mmh. D'ailleurs, je parlais, pour ceux qui se rappelleront de leur cours de philo, en France, c'est Descartes. Dans les cultures anglo-saxonnes, on va plus avoir Hume, qui est très empirique. C'est deux approches différentes. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu des pitchs de start-up, de Silicon Valley, ou machin. Ça commence toujours par un fait, une opinion, une petite histoire. Toujours. Ça capte votre attention.
Ouais.
Après, si besoin, on rajoute les concepts, pas toujours.
Si besoin.
On commence avec un executive summary,
oui.
Une synthèse,
oui.
Avec la recommandation. Le sous-entendu derrière, parce que nous, on utilise les sous-entendus quand même, c'est que, bon, bah, moi, je suis experte sur les trucs, vous le savez, vous me faites confiance. Donc, comme vous me faites confiance, vous imaginez que j'ai fait les groupes de travail, les machins, les trucs, les bidules. On va pas perdre de temps à tout redescendre. On va éviter les discussions théoriques et on va aller directement sur la recommandation et ce qu'il faut faire.
Straight to the point. Ça semble beaucoup plus autonomisant, non? Alors, encore une fois, il y a une notion de relativité, mais ce que tu décris, notamment, encore une fois, je me mets dans la peau d'un manager et d'une équipe, notamment, du coup, plutôt les récepteurs, ça semble assez autonomisant, en fait. Où est-ce que je l'ai?
Je suis assez d'accord avec toi.
Mmh.
On est plus facilement responsable de son raisonnement.
Ouais.
Ça, c'est bien. Après, pour nous, ça, c'est très compliqué, parce que nous, on veut savoir comment l'autre a réfléchi. pas forcément d'ailleurs pour démonter son argumentaire, hein, mais juste pour voir si on a bien pensé à tout. Nous, on aime bien quand même, on n'aime pas trop le risque. Hein. Donc, on aime bien savoir si on a tout vérifié.
Si on aime bien se faire l'avocat du diable, nous, en plus.
Ah, on aime beaucoup.
Ah, bah, oui.
D'ailleurs, ce sera un autre, c'est un autre acte, celui-là. Mais nous, on adore ça, tout à fait. Mais c'est... Moi, je le vois aussi dans l'éducation ou à la fac. En France, si vous vous souvenez de vos cours de maths, il y avait toujours des points pour le raisonnement.
Tout à fait. Absolument. Comment est-ce qu'on a réfléchi pour arriver au résultat?
Voilà. Et même si on n'avait pas le bon résultat,
tout à fait.
Si c'était juste une faute de calcul, mais que tout le raisonnement était bon, on avait quand même la moitié des points.
C'est vrai.
Alors, aux États-Unis, il n'y a que le résultat qui compte.
Ah oui, peu importe comment on y arrive.
Peu importe comment on y arrive.
Ok.
C'est bon ou c'est pas bon? Voilà. Donc, y a les deux manières de faire.
Mmh. Alors, ça veut dire quoi quand on est manager? Toi, comment tu l'as vécu, cette dimension, que ça soit dans... Alors, tu me disais que tu avais un boss français, mais alors peut-être par rapport à tes équipes. Ça voulait dire quoi d'avoir été élevé au pays de Descartes et arrivé au pays de Hume?
Eh bien, ça veut dire que quand on présente une reco, moi, j'étais souvent extrêmement frustrée.
Wow.
Ouais, ok, mais t'y arrivais comment à cette solution?
Elle est où l'équation?
Parce que moi, je veux bien te faire confiance, mais... Et bon, voilà. Donc là-dessus, moi, je trouve qu'il y avait un savant équilibre à trouver entre le lâcher-prise. Je vais pas tout savoir de la manière dont ils ont réfléchi, et finalement c'est pas grave parce que fondamentalement c'est quand même eux les experts.
Oui.
Et il y a quand même un élément que j'ai mis du temps à apprivoiser, qui est se faire quand même confiance quand ça nous paraît bizarre.
Ok. Dire ça je le sens pas, quoi.
Oui. Et s'écouter, et là s'autoriser à poser des questions.
Mm-hmm.
Même si l'autre se présente comme un expert, même si tout ça, et s'autoriser à creuser quand même quand il y a quelque chose qui nous chiffonne. Parce que finalement, à chaque fois que je n'ai rien dit alors qu'il y avait quelque chose qui me chiffonnait, finalement, j'aurais mieux fait de parler.
Challenger.
Ouais, et finalement, il y avait une erreur. Donc, en fait, il faut trouver l'équilibre, qui est encore une fois très compliqué à trouver, mais il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et donc, moi, j'avais un rôle de française dans un pays américain. Et donc, en fait, quand on reportait au siège, on reportait essentiellement à des Français.
Et oui, je retombais de l'autre côté sur beaucoup de principes.
De principes et d'explicité de raisonnement et comment on y arrivait, etc. Et là, en fait, bah, pareil, à partir dans de la communication explicite,
oui,
avec mes équipes américaines, et leur dire, bon, bah, les Français, ils ont besoin de comprendre comment vous êtes arrivés à votre solution. Sinon, en fait, ils ne vont pas l'accepter. Et donc, en fait, accompagner les équipes dans la réalisation, en fait, d'un support qui pouvait permettre de convaincre de l'autre côté.
Donc là aussi, on est coté, si on reprend un peu la même métaphore on a pris sur les deux précédents, c'est là encore tes côtés récepteurs, finalement.
Ouais.
Dans une certaine mesure, en tout cas.
Dans une certaine mesure.
Oui.
Parce que quand on veut convaincre, avoir un dialogue tout seul, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, en fait.
Oui, et puisque tu utilises effectivement quelque chose de très important, le fait de convaincre, c'est un exercice de vente, quel qu'il soit, hein, de vente d'une décision, d'une opinion. Et finalement, comme dans toute prise de parole, j'ai envie de dire, tu t'ajustes à ton audience, quoi. À quoi tu veux arriver? Et si ton objectif, c'est d'emporter une décision, celle que tu es en train de vendre, tu t'ajustes à la personne que tu as en face de toi. Et s'il a besoin de principe, tu vas lui en donner. Et s'il a besoin d'application, tu vas lui en donner. Mais ça vaut le coup de se poser 5 minutes et de se dire, qui ai-je en face de moi?
Absolument. Alors, ce qui est compliqué, quand même, c'est quand on est sur une audience mixte.
Ah.
Ce qui arrive.
Ouais.
Et là, en fait, la recommandation qu'Erin Meyer fait et qui, je pense, est très judicieuse, c'est en fait de faire des allers-retours entre je vais faire une synthèse, mais j'explique quand même comment j'ai réfléchi derrière, et puis je reviens si jamais il y a besoin.
Ouais.
En fait, c'est d'être flexible dans l'approche.
Oui. Alors, c'est intéressant parce que, effectivement, je le vois avec certains de mes clients avec qui je peux être amenée à préparer des meetings importants, etc. C'est, voilà, c'est avoir son exec sum, Marie, pardon, et des annexes. Et faire cette espèce d'aller-retour pour nourrir tout le monde. Dans mon executive summary, ma synthèse, j'affirme ceci ou cela. Je porte des convictions. Mais derrière, ben, j'ai l'annexe de la page 75 qui donne un peu l'arrière-cuisine pour ceux qui en ont besoin.
Exactement.
Ouais, c'est ça. C'est une belle gymnastique intellectuelle pour les uns et les autres d'ailleurs.
Ah, pour tout le monde.
Absolument. Et une dernière chose aussi, c'est que, alors nous, ça nous arrivera pas, mais il peut y avoir des, nous Français, je voulais dire,
Oui.
mais il peut y avoir des cultures qui sont habituées en fait à être très straight to the point, comme tu dis, donc droite au but,
Oui.
qui se retrouvent face à une audience qui est pour le coup à l'inverse sur les principes et qui va commencer à challenger les hypothèses,
Oui.
Et ça peut être extrêmement déstabilisant pour la personne en fait qui arrive avec ses recos, et ça peut être aussi très mal pris parce que attendez, pourquoi vous mettez en doute mes compétences, mon expertise et
Oui.
tout ça. Donc en fait, ça demande aussi de se préparer soi à recevoir potentiellement, enfin à ce que la réunion ne se passe pas du tout comme on avait prévu. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on est nul.
Oui, non, mais c'est ça, parce qu'on peut avoir le sentiment que du coup, on remet en cause notre professionnalisme, notre sérieux,
Exactement.
voire qu'on n'a pas bossé.
Voir qu'on n'a pas bossé. Ou en tout cas, pas bien.
Ouais.
Donc, c'est vraiment se préparer aussi dans un contexte de présentation multiculturelle à avoir des remarques qui sont pour nous un peu bizarres.
Alors, une chose à retenir sur l'exercice de convaincre dans un environnement multiculturel, Astrid?
Pour les Français, moi, je dirais attention. À trop de concepts.
Ah.
Attention, attention, attention. Rajouter des petites anecdotes,
Faire attention à ça.
Très peu de cultures sont aussi conceptuelles que nous. Donc,
Travailler des pitches et ses présentations. Okay.
Exactement.
Super, Astrid. Waouh, écoute, on a couvert trois morceaux absolument passionnants et je pense qu'il me faudra un certain nombre d'écoutes pour bien ancrer tous ces principes. Merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça. On se retrouve très vite pour couvrir d'autres éléments très importants et on refera sans doute référence à cet épisode. On se retrouve très vite, Astrid. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Passez une bonne journée.
Merci. Au revoir.
Bye bye. Nous arrivons au bout de ce nouvel épisode de Manager au quotidien. J'espère que vous l'avez trouvé utile et que cela vous aidera dans votre quotidien de manager. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser un avis et des étoiles sur la plateforme. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter mon site web www.lepremierjourtoutattaché.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode de Manager au quotidien.